car. Gloire au Seigneur. Je sais que ça brûle dans le cœur. Nous voulons comprendre tout de suite quel est cet esprit qui représente un véritable danger pour l'Église de Jésus-Christ. Quel est cet esprit? Quelle est la nature de cette pensée que nous sommes appelés à combattre absolument par tous les moyens? Car, comme l'esprit de Bélial, eh bien, l'esprit des Gabatins est aussi à l'affût. L'esprit des Gabatins fait tout pour essayer de saper l'œuvre de Dieu, essayer de rendre l'Église de plus en plus impotente. Voyez-vous, essaye par tous les moyens de la chloroformer pour que cette Église, eh bien, plonge de plus en plus dans une sorte de léthargie morale et spirituelle afin de mieux la cribler, de mieux la détruire. Mais c'est sans compter sur celui qui veille sur son Église. C'est sans compter sur celui qui en est la tête. Celui-là, il veille par tous les moyens pour que son Église reste attentive, alerte, puisse faire preuve de discernement qui l'amène donc à voir ce qui vient de Dieu, à recevoir ce qui vient de lui et à rejeter tout ce qui vient de l'ennemi, quelle que soit sa forme. Église en danger, esprit des Gabatins. De quoi retourne-t-il? De quoi est-il question? Bien, nous allons lire notre texte. C'est d'ailleurs le seul texte du Nouveau Testament dans lequel apparaît ce mot Gabatin sous sa forme araméenne. C'est la seule occurrence de ce mot dans tout le Nouveau Testament, sous sa forme, je précise bien, sous sa forme araméenne. Nous sommes donc dans l'évangile de Jean, l'évangile de notre bien-aimé Jean l'apôtre, chapitre 19. Nous sommes là dans cette période de la vie du Seigneur que nous appelons la passion. Et pour ceux qui s'inquiétaient un tout petit peu, qui ne voyaient pas le lien entre l'esprit des Gabatins et la pensée pascale, car comme vous le savez, d'après le calendrier qui nous régit, cette semaine est considérée comme étant une semaine pascale, oui ou non? Eh bien, pour tout cela, qu'il se rassure, Dieu fait bien les choses, il fait tout à merveille. Car le récit que nous allons lire, la pensée des Gabatins, c'est justement une pensée dont ils font parler lorsqu'on est en période des Pâques. Car nous allons voir que c'est un esprit qui ressemble à tout, sauf à l'esprit de Pâques. Alléluia! L'esprit de Pâques est un esprit de sacrifice, un esprit, eh bien, d'humiliation, un esprit de souffrance pour la gloire du Père. Alléluia! Nous sommes donc au chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 5, donc c'est une longue lecture. C'est pour permettre à chacun de nous de comprendre un peu ce qui va être dit dans la suite, le commentaire, le développement qui sera fait en rapport avec ce thème ou ce concept de Gabatin. Donc Jean chapitre 19, évangile de Jean chapitre 19, à partir du verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme, ecce homo. » Ça vient de là. Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire ou le prétorium, et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « À moi tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit avec un calme royal et divin, « Ça, c'est moi qui ajoute. C'est apocryphe, ça. Il répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché ?» Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs qui rièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Donc le grand empereur. Faut savoir qu'à cette époque-là, tous les empereurs romains portaient le titre de César. Mais à cette époque-là, c'était donc l'empereur Tibère qui régnait sur l'Empire romain. Verset 13. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal au lieu dit le pavé et en hébreu Gabar. Alléluia. Il s'assit donc sur le Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la sixième heure, il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « À mort, à mort !» Littéralement, « ôtez, ôtez, enlevez !» Mais bon, c'était justement, « Enlevez-le et qu'il soit pendu à la croix. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Entre parenthèses, ils ont préféré le règne de César en celui du roi des rois. Ils en ont payé très cher. Voyez? Parce que en 70, l'armée de Titus, l'armée romaine, va envahir Jérusalem, va tout détruire. Et à partir de l'an 70, va donc débuter ce qu'on a appelé la grande diaspora juive. À partir de ce moment-là, ils vont être éparpillés un peu partout à travers le monde. Certes, ils ne sont pas tous partis. Il y a toujours eu une poignée qui est restée en terre d'Israël. Mais la quasi-totalité donc des juifs ont été éparpillés à travers le monde. Donc, ce qu'on appelait la grande diaspora. Vous voyez, mes amis, on finit toujours par récolter ce qu'on a. Nous avons tout intérêt, nous aussi, mes amis, à rejeter tout autre règne et à n'accepter que le règne de celui-là. Alléluia. Nous n'avons d'autre roi que César. Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui s'est dit en hébreu Golgotha. Amen. Je crois que c'est à ce niveau que j'aurais dû entendre un amen vibrant, intense, extraordinaire. Car le but de ce séminaire, si je peux déjà m'arrêter à ce niveau, ce n'est pas simplement, mes amis, de permettre à chacun de nous de voir s'il est en train de se mouvoir à l'ombre de l'esprit de Gabata ou s'il est en route vers Golgotha. Alléluia. Gabata ou Golgotha, le choix est devant nous. Et le but, mes amis, l'objet de notre séminaire, ce n'est pas simplement de recueillir, d'églaner autant d'informations sur cette pensée que nous appelons la pensée Gabata ou l'esprit de Gabata, mais le but, c'est que nous puissions appuyer sur l'interrupteur divin afin que le spot de Dieu puisse briller et qu'en brillant, il nous montre où nous sommes par rapport à cet esprit-là et en même temps qu'il puisse nous montrer le chemin, le seul chemin que tout homme qui se réclame de Jésus devrait et doit prendre, c'est celui qui part de Gabata vers Golgotha. Et ce chemin-là, mes amis, c'est un chemin difficile. C'est un chemin odieux qui demande plus que du sacrifice. Et c'est là que nous allons voir que l'esprit de Gabata est aux antipodes de l'esprit de Golgotha. Et là, vous avez tout compris. C'est là, verset 18, pour terminer ma lecture, c'est donc là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus, le Seigneur des Seigneurs, et Jésus, le Roi des Rois, et Jésus, le Créateur de toutes choses, car c'est de lui, car c'est pour lui, car c'est par lui que tout est venu à l'existence. Mais il est venu, mes amis, pour cette heure-là, l'heure de Golgotha. Mais nous ne pouvons pas mieux apprécier, mes amis, le sacrifice que le Seigneur a accompli à Golgotha si nous ne nous attardons pas au prétorium de Pilate pour qu'ensemble nous puissions examiner et ce au regard de la parole de Dieu sous le discernement du Saint-Esprit, ce qu'est l'esprit de Gabata, ce qu'est l'esprit, la pensée qui agit et qui crée une sorte d'ombre mortifère. Et lorsque les gens évoluent à l'ombre de l'esprit de Gabata, eh bien, ils évoluent en allant tout droit au devant de la destruction et de la ruine. Que Dieu soit béni. Église en danger, esprit de Gabata. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donc vous rappeler, frères et sœurs, qu'il y a quelque temps d'ici, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir un séminaire autour de l'esprit de Bélial, qui présente et qui constitue un véritable obstacle à l'œuvre et à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Un esprit qui, depuis, essaye par tous les moyens de créer des conditions morales et spirituelles qui empêchent à l'esprit de Dieu de pouvoir manifester la vie du Christ dans toute sa plénitude. Car Jésus a dit qu'il est venu afin que ce brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Le diable connaît très bien cette pensée. Le diable connaît bien, mes amis, la volonté du Seigneur à l'égard de tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui se sont repentis, qui se sont appuyés sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, ceux qui demeurent dans la pensée de Golgotha, ceux qui avancent avec lui, le diable connaît. Il sait que ceux-là, s'ils restent attachés au Seigneur, s'ils continuent à vivre selon les principes sacro-saints de la parole de Dieu, ceux-là iront de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ceux-là, mes amis, demeureront, comme nous l'avons déjà vu, demeureront dans le triomphe extraordinaire de Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, le diable va tout faire pour essayer de distraire l'Église. Il va tout faire pour essayer de manipuler ceux qui font partie de l'Église. Il va essayer de créer un climat malsain, une atmosphère indigne qui puisse empêcher au Seigneur de pouvoir nous bénir. Alléluia. Une atmosphère et un climat qui serait un véritable obstacle à l'épanouissement, mes amis, de l'œuvre de Dieu et à sa floraison. Car l'œuvre de Dieu est appelée à fleurir, alléluia, et à produire du fruit pour sa gloire. Donc, nous avons examiné ensemble comment cet esprit, par tous les moyens, essaye de saper l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous avait beaucoup bénis. Et je rends grâce à Dieu pour la réaction que ce séminaire a rencontrée auprès de beaucoup d'hommes et de femmes, non seulement au niveau de notre Église, car je sais qu'il y a des gens qui viennent d'autres assemblées, et j'aimerais tous vous saluer, vous qui n'êtes pas de la borne, mais qui cependant, eh bien, êtes venus partager ce moment ensemble avec nous. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ce séminaire a rencontré un écho positif. Plus qu'un écho, ce séminaire a amené beaucoup d'entre nous à avoir un autre regard sur certains enseignements, sur certaines pratiques autour de nous, sur la manière de travailler de certains ministères ou de certaines œuvres qui se réclament de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Avec ce séminaire qui débute aujourd'hui, eh bien, nous allons demeurer dans le même registre. C'est-à-dire, nous allons essayer d'examiner ensemble un autre danger qui guette l'Église de Jésus, car comme je l'avais souligné, l'Église reste la cible privilégiée de puissances démoniaques. L'Église reste, mes amis, eh bien, la proie à battre de la part du monde des ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur nous avait mis en garde, et nous a mis en garde, et il nous a montré tout de suite dans quel contexte il construit son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, et rien ne prévaudra contre elle. Rien ne pourra supplanter mon Église, même pas les portes du Hadès, même pas les portes du séjour des morts. Voyez-vous? Et ces esprits qui dominent les portes, on en a déjà parlé, eh bien font tout pour détruire cette Église. Donc il va encore être question durant ce séminaire d'un autre danger qui est tout aussi dangereux, pas seulement cette tautologie, que l'esprit de Bélial, à savoir l'esprit de Gabata. Nous allons donc poursuivre notre odyssée à travers la parole de Dieu, à travers la révélation écrite, pour essayer de voir ensemble ce que la Bible a à nous dire concernant cette pensée que nous avons appelée et que nous appelons la pensée de Gabata, l'esprit de Gabata qui nous est présenté comme étant un danger véritable pour l'Église de Jésus-Christ. Qui est cet esprit? Quel est ce danger qui se présente à l'Église sous la forme d'une pensée qui est vraiment à l'opposé de la pensée de Dieu, à l'opposé de la pensée divine? Qui est cet esprit? Quelle est cette pensée qui est aux antipodes de la pensée de l'esprit? Il s'agit donc de l'esprit de Gabata. Esprit de plus en plus actif, mes amis, dans les chefs de beaucoup d'entre nous, nous qui sommes appelés au ministère. Esprit de plus en plus actif dans les chefs de tous ceux, mes amis, qui ont reçu un quelconque appel dans l'Église de Jésus. Que ce soit un appel en rapport avec les cinq ministères, que ce soit un appel au niveau local, comme un appel d'ancien, un appel de diacre, un appel de diaconesse, eh bien tous ceux qui sont appelés, mes amis, à avoir une certaine visibilité dans le corps du Christ, eh bien ceux-là sont la cible privilégiée de l'esprit des Gabata. Et nous allons voir comment cet esprit arrive à distraire la tête, à frapper la tête, afin de disperser les brebis. Voyez? Car si l'esprit de Bélial travaille plus au niveau du peuple, vous vous rappelez, hein? Eh bien, l'esprit de Gabata, lui, agit dans les hauteurs où se trouvent ceux-là que le Seigneur a appelés. Ceux qu'il a appelés pour devenir pasteur, c'est-à-dire berger, à la tête d'une église, d'une assemblée. Ceux-là qui ont été appelés pour être docteurs, pour être enseignants de la parole de Dieu, pour instruire le peuple dans la doctrine telle que nous l'avons reçue de la part des apôtres. Ceux qui ont été appelés comme évangélistes, qui doivent aller dans le monde, qui doivent aller, mes amis, affronter la laine nauséabonde du monde pour prêcher l'évangile, aller chercher les perdus, les prendre et les amener au salut, que ce soit l'appel de prophètes, ceux qui parlent pour Dieu, car dans le mot, je vous ai déjà donné l'étymologie du mot prophète, c'est parler pour, voyez-vous, ceux qui parlent pour Dieu. Maintenant, la forme de la parole peut différer, ça peut être une prophétie qui sort, qui peut être exhortative, qui peut être prédictive, c'est-à-dire qui annonce un événement futur. Ça peut être une parole prédicative, c'est-à-dire qui est prêchée comme maintenant je vous prêche. C'est aussi une prophétie, dans le sens où c'est de la part de Dieu et pour Dieu que nous parlons. Que ça soit, eh bien, tout autre ministère, apôtre, eh bien, tous ceux-là, anciens, diacres, diaconesses, responsables de département, tous ceux, mes amis, qui ont reçu, ne serait-ce qu'une once, une once de responsabilité dans le corps du Christ, ceux-là, mes amis, sont la cible privilégiée de l'esprit de Gabata. Et ce séminaire a donc pour un des objectifs c'est de nous sensibiliser par rapport à ça. Peut-être vous pourriez vous dire, ah oui, mais moi je ne suis pas concerné, je ne suis qu'un simple chrétien. Aujourd'hui vous êtes un simple chrétien, demain, qui sait si vous serez pasteur? Qui sait si vous serez prophète? Qui sait si vous serez évangéliste? J'ai commencé comme vous, assis, j'entendais, j'écoutais l'homme de Dieu prêcher depuis cet estra, enfin cette chair. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'un jour, moi aussi je me lèverai. Moi aussi, je recevrai de la part du Seigneur le tablier du service. C'est ça le ministère. Hein? Quand vous allez dans un restaurant ou quelque part, eh bien, vous les clients, vous vous asseyez. Oui ou non? Et puis, le serveur vient. Il est habillé. Il a un manteau de service. Et il est chargé de vous servir. Alléluia. Maintenant, lequel est le plus grand? Celui qui est assis et qu'on sert, ou celui qui a mis le tablier et qui est chargé de servir? Le plus grand, c'est celui qui est. Donc vous voyez que c'est vous qui êtes grand. Parce que vous êtes assis. Et moi, je suis en train de passer dans le rang avec la nourriture du Seigneur, avec la manne d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est un esprit qui va chercher à frapper. Peu importe l'appel. Dès lors que vous avez une parcelle de responsabilité dans le corps du Christ, eh bien, vous devenez un danger pour lui. Voyez-vous? Eh bien, vous allez l'attirer malgré vous. Puisque c'est dans sa nature d'agir toujours à l'encontre de ceux qui assument une quelconque responsabilité dans le corps du Christ. Gloire à Dieu. Donc l'esprit des Gabata, avant d'aller plus loin, d'examiner ensemble ce que la parole de Dieu a à nous dire à propos de cet esprit, je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le mot lui-même. Vous savez, il est toujours important de regarder à l'étymologie d'un mot pour mieux apprécier son sens et sa signification. Oui ou non? Voilà, cela est important. Donc, c'est un mot araméen. Même si l'apôtre Jean dit que c'est en hébreu, il faut savoir qu'à l'époque on parlait araméen, et les auteurs du Nouveau Testament, pour parler de la langue qui était parlée en araméen, eh bien utilisaient souvent le mot hébreu, mais ce n'était pas l'hébreu proprement dit, parce qu'à cette époque-là, plus personne ne parlait l'hébreu à part l'élite religieuse. Ceux qui pouvaient lire la Torah, qui étaient en hébreu, à part quelques livres, donc comme Daniel, en araméen, mais le reste, tout était en hébreu. Voyez-vous, donc il s'agit de l'araméen, même si l'auteur parle de l'hébreu. Donc c'est un mot araméen. Je vous ai déjà dit, l'araméen était la langue parlée à l'époque du Christ. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se réclament, qui parlent encore cette langue-là, c'est parmi les chrétiens assyriens qui sont persécutés à l'heure d'aujourd'hui, en Irak, en Syrie, etc. Et au Liban, il y a un village, Maloula, ça n'a rien à voir avec l'ancien cardinal, voyez, où on parle encore l'araméen, voyez. C'était la langue de l'Empire perse. Donc dans tout l'Empire, comme plus tard, à l'époque d'Alexandre le Grand, eh bien, toute cette région conquise par Alexandre le Grand parlait grec, et même plus tard, lorsque les Romains sont arrivés, eh bien, c'est le grec qui a continué à être utilisé comme la lingua franca, la langue de communication, et à cette époque-là, c'était donc l'araméen. Et quand Jésus parlait, il parlait en araméen, n'est-ce pas? Donc, c'est un mot araméen, Et les mots araméens se distinguent souvent par la dernière syllabe, ta. C'est ainsi que si vous regardez dans le Nouveau Testament, et même dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les Évangiles ou dans le livre des Actes, vous verrez des mots comme Tabitha, Maranatha, Golgotha, Gaba. Ah ben vous parlez araméen. Voilà. Et ces termes, comme je l'ai souligné, ne se trouve qu'en cet endroit, dans sa forme araméenne. Dans les autres évangiles, on parle justement de Pilate qui s'assied sur le tribunal, voyez, mais sans utiliser le mot Gabata. Donc voilà. Alors, c'était quoi Gabata? Donc l'étymologie, c'est quoi? C'est que ce mot provient d'une racine qui veut dire lieu élevé ou élévation. C'est ça la racine, élévation ou éminence. Pas éminence dans le sens catholique du terme, comme vous le savez tous. Le mot ou le terme éminence est donc utilisé comme titre d'honneur pour les cardinaux, hein. Donc, mais éminence dans le sens d'une petite élévation. Ok? C'est ça le sens étymologique du terme. Et les Juifs appelaient le prétoire, qui était donc la résidence, ce lieu-là où résidait à l'époque d'abord Hérode le Grand. Il avait construit un grand palais, et ce grand palais s'est situé à une hauteur à l'ouest de Jérusalem. Donc c'était quelque chose élevé. Voyez? Alors ils appelaient cela Gabata, à cause de l'élévation, à cause de l'éminence sur laquelle, eh bien, Hérode le Grand, puisque vous êtes des grands lecteurs de la Bible, Hérode le Grand, donc le grand-père d'Hérode Agrippa Ier, hein, si vous lisez dans le livre des Actes, voyez, ou même dans les évangiles, c'était le grand-père, donc celui qui avait lancé cette dynastie de Hérode. C'était le grand, et puis ses enfants sont arrivés, se sont partagés carrément son petit royaume, et donc on va se retrouver avec la Judée, avec la Galilée, etc. Il avait fait construire son palais, le palais royal, et lorsque les Romains sont arrivés, eh bien, la terre d'Israël va être occupée par les Romains. Et comme c'était des gens très, très organisés, donc ils avaient placé des gouverneurs ou des préfets à la tête des provinces. Vous êtes avec moi? C'est ainsi que la terre d'Israël était divisée en provinces. Vous aviez le... Bon, ça c'est moi qui appelle province, c'est juste pour vous donner une idée. Donc vous aviez la Galilée, voyez, donc avec un gouverneur, c'était Hérode. Et vous aviez la Judée, voyez, donc où se trouvait la ville de Jérusalem, etc., avec un gouverneur ou le préfet qui s'appelait Ponce Pilate. C'était donc... Ponce Pilate était une autorité romaine. C'était donc le préfet, le gouverneur, avec un titre pour lui de procurateur. Donc c'était la haute autorité romaine. Mais son quartier général ne se trouvait pas à Jérusalem. Le quartier général se trouvait à Césarée. Mais comme il était gouverneur, et ici, ce qui explique sa présence, certainement à cause de la fête de Pâques, voyez, donc il est venu à Jérusalem, et le gouverneur, le préfet, était à Jérusalem, eh bien, il occupait ce qui fut autrefois le palais de Hérode le Grand. Et dans ce palais-là, eh bien, que les Juifs appelaient Gabata, se trouvait donc le tribunal, et lorsqu'il était à Jérusalem et qu'il devait juger, qu'il devait faire, juger ou procéder à tel ou tel ordre verdict, il s'asseyait sur le Gabata, et de là, il pouvait donc juger, etc. N'est-ce pas? Donc, voilà la petite histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la signification étymologique, le sens même de ce mot, Gabata, qui veut dire lieu élevé. Gabata, qui veut dire élévation. Et à partir de ça, vous commencez déjà à comprendre, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est là que se trouvait le tribunal, un tribunal public, sur lequel donc Ponce Pilate s'était assis, Ce n'était pas la première fois. C'était ainsi, justement, lui, gouverneur de Judée, pour pouvoir juger le Seigneur. Et nous savons tous comment il va être jugé. C'est donc dans ce lieu-là, lieu qui est une illustration et une image, mes amis, de toute forme d'élévation selon les standards des hommes, c'est dans ce lieu-là que le Seigneur va donc comparaître devant un homme qui s'assied pour juger le Créateur. Pourriez-vous vous imaginer, mes amis, c'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? Même s'il est venu, il était venu pour cette heure-là, mais c'était quelque chose de plus que pathétique. Pendant quelques heures, eh bien, va se dérouler le procès, le plus grand procès de l'histoire de l'humanité. Le Créateur jugé par une créature. Certes, gouverneur, certes, préfet, certes, doté d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir, mais néanmoins créature faite par Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Et nous connaissons tous, ce fut une mascarade de jugement. Ce fut une dramatique parodie de justice, car le but poursuivi, ce n'était pas tant de rendre justice, mais c'était plutôt de se débarrasser, d'éliminer Jésus-Christ de Nazareth et de laisser l'homme assis sur son trône, l'homme autour duquel tout gravite, car lui était une menace. Voyez-vous? Il a subi plusieurs interrogatoires, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais nous pouvons résumer tous ces interrogatoires à deux choses. Il a subi des interrogatoires de la part des autorités religieuses. Il a d'abord été amené chez Anne et Caïphe, qui étaient donc des souverains sacrificateurs, et puis ensuite il a été traîné devant le Sanhédrin, c'était donc le gouvernement juif, qui était constitué de 70 ou 70 membres, et à la tête du Sanhédrin, il y avait donc le souverain sacrificateur. Il a été jugé, et vous le savez tous, quand on juge quelqu'un, eh bien le juge est assis, et le présumé coupable est... Ensuite, non seulement devant l'autorité religieuse, devant le champ de son peuple, quel drame! Comme Jean le dira plus tard, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La pensée de Gabata, c'était de laisser l'homme assis, l'homme qui pilote tout, l'homme qui conduit tout. C'était de se débarrasser de l'homme de Galilée, le seul digne, mes amis, de régner dans la vie d'un homme, le seul dont le règne est un règne de paix, un règne de joie, un règne de bonheur. Alors que tout autre règne, qu'il soit le règne humain, qu'il soit le règne du diable, c'est toujours un règne qui ruine, qui détruit, qui asservit, qui rend esclave. Voyez-vous? Et dans les deux cas, mes amis, que ce soit devant l'autorité romaine, que ce soit devant l'autorité religieuse, c'est toujours l'homme qui est assis, alors que le Seigneur est debout pour entendre la sentence. Qu'a-t-il fait pour mériter cela, mes amis? Qu'a-t-il fait pour être traité comme un criminel? Rien du tout. Sa parole nous dit qu'il allait de lieu en faisant du bien. N'est-ce pas? De lieu en lieu. Mais malgré ce qu'il a fait, il se retrouvait devant l'homme assis sur son gabata pour le juger, pour se débarrasser de lui, car il voyait en lui un obstacle. Je parle de l'homme dans le sens générique du terme. Ceux qui entendaient son message pouvaient témoigner et dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » N'est-ce pas? Ceux qui voyaient ses œuvres pouvaient s'écrier en disant, il fait tout à merveille. Oui, partout il passait, le Seigneur faisait que du bien. Mais malgré cela, il a été conduit jusqu'à Golgotha. Mais en allant à Golgotha, il nous montrait le chemin que nous devons tous prendre. C'est le seul chemin qui conduit à la victoire. C'est le seul chemin qui conduit au succès, à la réussite. C'est le seul chemin qui conduit à la vraie élévation. Car c'est à la croix qu'il a été élevé. Lui-même avait dit, quand vous verrez le Fils de l'homme élevé, quand vous verrez le Fils de l'homme glorifié, l'élévation selon l'évangile de Jean. Mes amis, ce n'est pas habiter à être environné par une lumière inaccessible. Non, c'est la croix et la croix seule. Jésus a été élevé à Golgotha. Et à Golgotha, nous reviendrons là-dessus. C'est l'humiliation, car il a choisi. Vous aurez remarqué qu'il n'a pas respecté, il n'a pas dénoncé les irrégularités concernant son procès. Il ne s'est pas agité en disant « c'est injuste, qu'est-ce que c'est pour des créatures ?» Pas du tout. Il avait choisi de se taire pour toi et moi. Il avait choisi de souffrir pour toi et moi. Il avait choisi de prendre le chemin qui va vers Golgotha pour nous montrer le chemin qui conduit à la vie véritable. Il avait choisi de mourir pour expier nos péchés et pour rendre accessible son salut et la délivrance de toute forme de perdition et de ruine éternelle. Gabata. Comme nous venons de le voir, mes amis, Gabata, ou du moins sous l'influence de cet esprit de Gabata, sous l'influence de cette pensée de Gabata, l'homme est devenu sujet et le Seigneur objet. Oui ou non? L'homme est assis sur le trône. C'est lui le sujet qui doit tout diriger. Et le Seigneur devient l'objet. L'esprit de Gabata, mes amis, c'est un esprit qui met le moi en évidence. C'est un esprit qui gonfle le moi. C'est un esprit qui encense le moi, qui le parfume, qui le cajole, qui le met en évidence, qui le met sur un piédestal, et c'est ce piédestal-là que nous appelons le Gabata, qui l'élève, mais qui élève l'homme selon les critères du monde et les critères de l'ennemi. Et une telle élévation, comme nous allons le voir demain, conduit toujours à la ruine et à la mort. Car la vraie élévation, c'est selon les normes divines. La vraie élévation, mes amis, la vraie réussite dans la vie de tout chrétien, dans le ministère de tout homme de Dieu, de toute femme de Dieu, la vraie réussite, c'est lorsqu'on accepte d'aller à Golgotha. Et entre Gabata et Golgotha, eh bien, le chemin est un chemin rocailleux. La route, mes amis, est parsemée d'embûches, d'obstacles, de ronces et d'épines. Entre Gabata et Golgotha, eh bien, le Seigneur a pris sa croix. Voilà ce qu'il attend de chacun de nous. Il n'y a pas d'autre moyen d'être à l'abri de cet esprit de Gabata qui nous amène à développer un ego surdimensionné. Il n'y a pas d'autre moyen d'être à l'abri de cet esprit de Gabata, cet esprit, mes amis, qui fait de nous, qui nous amène à croire que nous sommes les plus beaux, que nous avons le ministère le plus loin, que personne ne parle comme nous, personne ne maîtrise la Bible comme nous, personne n'a l'onction comme nous. Quand nous parlons, c'est comme si Dieu lui-même parlait. C'est cet esprit qui nous amène, mes amis, à se comporter non pas comme des simples créatures sauvées par grâce, mais à usurper l'autorité du Créateur. Gabata. Mes amis, c'est un esprit qui fait de l'homme un acteur principal, qui fait de l'homme, eh bien, le centre de sa vie, et désormais tout tourne autour de l'homme. Tout orbite autour de l'homme. C'est cet esprit, mes amis, qui fait donc que l'homme soit aux commandes de sa vie, aux commandes de son ministère. Il choisit là où il doit aller. En d'autres mots, il dit, Seigneur, écoute, moi je dois implanter une église Kalumbashi. Tu n'as pas de choix, je vais à Lumbashi. Voyez? C'est un esprit qui nous amène à nous asseoir aux commandes de notre vie. C'est un esprit, mes amis, qui amène l'homme à devenir le centre de gravité de sa propre existence. C'est un esprit qui amène l'homme à devenir sa propre boussole. Vous savez à quoi sert une boussole? À vous indiquer le nord, non? Voilà. Vous pouvez, à partir d'une boussole, savoir si vous êtes au nord, si vous êtes au sud, à l'est ou à l'ouest. Voyez? Mais une boussole, c'est quelque chose d'objectif, c'est pas en nous. Nous, nous pouvons avoir une idée par rapport, bon, le lever du soleil, c'est par là, etc. Essayez un peu de philosopher là-dessus, mais la boussole, vous l'avez, c'est fini, ça vous indique. Voyez? Cet esprit amène l'homme à se considérer comme étant sa propre boussole. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui discerne où se trouve le nord spirituel. Voyez? C'est là. C'est un esprit qui amène l'homme à fixer le cap lui-même, à déterminer la direction. Voyez? C'est un esprit terrible qui agit de plus en plus, comme je l'ai souligné, dans les chefs de tous ceux qui ont été appelés dans le ministère, les ministères établis par le Seigneur lui-même, qui ont été appelés dans d'autres responsabilités comme celle des diacres, d'anciens, de diaconesses ou autres, ou assumer une quelconque responsabilité dans le corps du Christ, eh bien ceux-là, mes amis, sont la cible privilégiée. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, tous ceux qui ont le privilège, mes amis, de se tenir derrière la chair, derrière le pupitre pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner le peuple de Dieu, beaucoup d'entre nous ont fait du ministère un trône sur lequel ils sont assis. Cet esprit a amené beaucoup d'entre nous à faire du service, mes amis, eh bien, une sorte de piédestal sur lequel on est monté. Désormais, par le ministère, on voudrait avoir une certaine visibilité, quitte à utiliser tous les canaux, tous les moyens, pour que tout le monde sache qu'on est le super pasteur de Kinshasa. Que tout le monde sache qu'on est le plus grand apôtre de tout le Bas-Congo. Vous ne pouvez pas parler de l'Église, de l'œuvre de Dieu au Bas-Congo, sans parler de moi. Voyez? C'est cet esprit-là, mes amis, qui est à l'œuvre, qui amène les gens à monter sur un piédestal, et à croire, et à les persuader qu'ils valent quelque chose, alors qu'en réalité, ce sont des zéros parfaits. Alors qu'en réalité, nous ne sommes que de nullité parfaite. Si nous sommes quelque chose, c'est simplement une grâce qu'il nous a accordée. Si nous pouvons nous exprimer, c'est simplement parce que lui nous a fait la grâce. Si nous pouvons ou nous avons fait telle ou telle autre étude, eh bien c'est tout simplement parce qu'il nous a ouvert la porte. Voyez-vous, comme lui-même l'a dit dans Luc, il dit, lorsque vous aussi vous aurez fait tout ça, quand vous aurez accompli votre vocation de serviteur, et qu'on vous demandera pourquoi vous l'avez fait, dites, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est tout. Il n'y a pas de gloire, mes amis, à voir le tablier de serviteur et à passer dans le rang pour servir les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Il n'y a pas de gloire à être un berger d'un troupeau. Voyez-vous? Mais cet esprit, mes amis, eh bien, essaye de nous aveugler. Essaye de provoquer en nous une sorte de tournis. Voyez? Pour essaye de nous enivrer. Et quand on est ivre, eh bien, on ne se contrôle plus, oui ou non? À cause de cet esprit-là, beaucoup d'entre nous confondent non seulement le nord spirituel qui conduit vers le Seigneur, mais beaucoup d'entre nous, eh bien, se retrouvent atteints du daltonisme spirituel. Vous connaissez cette anomalie visuelle? Ouais? qui se caractérise par la confusion de couleurs entre le rouge et le vert. Voyez, un daltonien voit rouge là où il y a vert, où c'est vert. Et voit vert lorsque c'est... Et ils sont un véritable danger hein, pour la conduite automobile. Imaginez-vous un peu un taxi conduit par un daltonien. Voyez, qui arrive au feu rouge, lui voit vert. Il accélère, hein? Résultat, c'est la mort qui s'ensuit. Oui. C'est cet esprit qui nous aveugle. Au point où nous confondons tout. Le bien devient mal, le mal devient bien. Ce qui est de la chair, une surexcitation de la chair, nous pensons que c'est ça l'onction. Et nous caressons les gens dans leur péché. Nous en faisons des prophètes. Mais tu fais prophète, qui es-tu? En vertu de quoi tu peux nommer quelqu'un simplement après lui avoir imposé le méditien? Toi, tu es prophète. C'est fini. On repose demain, tu deviens mon évangéliste. Ah, ils utilisent le mot, hein. C'est mon. Ce n'est même pas un mot affectif, hein. J'ai déjà parlé de ça. Vous savez, cet adjectif, eh bien, peut avoir deux sens. Quand je dis mon épouse, c'est dans le sens affectif du terme. Voyez-vous? Bien, je ne dis pas mon épouse dans le sens possessif du terme. C'est-à-dire, je ne possède pas ma femme. Il n'y a qu'un seul qui en est le propriétaire. C'est le Seigneur. Alléluia. Donc, quand ils disent mon évangéliste, c'est même pas dans le sens affectif. Ou dans le sens que, bon, mon, je l'apprécie. Non, c'est dans le sens possessif. Hein. Bon, papa évangéliste, viens. Fais ceci. C'est mon évangéliste. C'est moi qui l'ai institué évangéliste. Voyez. Même le ministère. Alors qu'il est dit, le Seigneur a donné aux uns d'être pasteurs, aux autres d'être apôtres, d'être ceci, à cause de cet esprit de Gabata, c'est maintenant l'homme qui est assis sur le trône et qui maintenant répand le ministère. Voyez. À partir de ce trône, à partir de Gabata, sur lequel l'ennemi amène beaucoup d'entre nous, eh bien, le prédicateur, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, peu importe, le prédicateur, eh bien, mes amis, il s'assied sur le Gabata, et à partir de là, il reçoit les honneurs. Vous voyez, les gens lui font des courbettes. Alors le moi est insensé. Le moi est tout à fait à l'aise. Le moi est cajolé dans son orgueil, dans sa hauteur, dans son arrogance. Il est parfumé de tout ça. Donc, le moi reçoit l'encens des acclamations. Le moi reçoit le parfum, mes amis, des offrandes, à partir du Gabata. C'est une position, mes amis, mortifère. Car on ne peut pas s'asseoir sur le Gabata et continuer normalement dans la vie. Car l'esprit des Gabata, nous le verrons demain. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction, conduit à la ruine et à la mort. Et nous allons voir comment cet esprit agit. Il peut agir directement vis-à-vis de nous-mêmes. Voyez-vous? Tout comme il peut aussi utiliser des gens. Vous savez, quelqu'un a dit à juste titre que les dictateurs, on les crée. Vous savez ça? Les dictateurs, on les crée. On commence toujours par des beaux discours. Ah, chef, à mon côté. Hein? Voilà. Et puis l'autre vient. Ah. Même Lumumba ne parlait pas comme ça. Ah bon? Ah, ok. Ah bon, c'est... Voilà. Et puis petit à petit, ah, vous êtes le plus fort, vous êtes le plus beau. Oui ou non? Vous voyez? Et après, petit à petit, ben, vous montez. Cette vérité est valable non seulement pour l'Église. Hein, le Gabata, Pilate n'était pas un croyant. Hein. Attention. Hein. Ouais. Vous qui avez des responsabilités politiques, parlementaires, faites attention. Vous vous asseyez sur votre Gabata, vous voyez les gens comme étant des chenilles. À attention, mon ami, mon frère et ma sœur. Ce sont des âmes pour lesquelles le roi des rois est mort. Tôt ou tard. Et c'est ça, mes amis, la chose la plus terrible et la plus horrible. Tôt ou tard, face à face, en ce jour-là, il ne sera pas assis sur le Gabata. Il sera assis sur son trône. Et ton Gabata à toi aura disparu. Il aura été emporté par l'ouragan de l'histoire. L'ouragan de l'histoire. Le cyclone de l'ennemi aura passé par là. C'est ce qui est terrible. Le même ennemi, le même esprit de Gabata qui te construit le piédestal, qui t'amène sur le même trône, c'est pour mieux t'achever. Avez-vous remarqué que plus un arbre est haut, plus sa chute peut être entendue hein, à des 100 lieues d'ici. Oui ou non? Plus c'est un arbuste, quand ça tombe, il n'y a personne qui... Oui. C'est ça. Donc nous devons faire attention. Il y a un Gabata dans le monde, comme il y en a dans l'Église. C'est valable. Alors si tu as une responsabilité de grâce, considère-toi comme serviteur. Considère tes ouvriers. Considère ceux qui sont sous tes responsabilités comme des gens que tu vas aider à aller de l'avant. Oui ou non? Sois sensible à leurs besoins. Écoute-les. Voyez-vous? Si tu avances, eh bien, fais-les avancer. Mais ne considère pas ta position comme étant le trône du Créateur. Non. Si ici sur terre, il n'y a pas de trône, de véritable trône. Il n'y a que des gabata. Et tout gabata est construit sur du sable. Et le problème avec le sable, ça peut tenir aujourd'hui, oui ou non? Oui, tant que le beau temps est au rendez-vous, hein. Nickel, hein, pas de problème. Voyez? Tant que c'est juste une petite brise, il n'y a pas de problème. Mais pour peu qu'il souffle un tout petit peu, c'est fini, tout s'écroule comme un château de cartes. Ça, c'est le gabata. Dieu, sur cette terre, il ne nous destine pas à un trône. Enlevez cela de votre tête. Quelle que soit la responsabilité dans l'Église, nous ne devrions jamais considérer cela comme un trône. Le Seigneur nous destine à une chose. Et c'est d'ailleurs le but principal, l'objectif principal de mon séminaire. Le Seigneur nous destine à quitter Gabata, à aller vers Golgotha. Et grand, et élevé, est acclamé, même au ciel, pendant que sur terre on se moque. Et croyez-moi, les vraies acclamations, ce sont les acclamations du ciel. Celui ou celle qui, au terme de sa marche avec la croix de Jésus, dans des conditions pénibles, dans des souffrances, avec persévérance et détermination, enfin arrive à monter sur la croix. Et là, sur la croix, certains pourront croire qu'il a échoué. Certains pourront croire qu'il a été abandonné. Mais c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Mes amis, Gabata, c'est la mort. Voyez-vous? Car avec l'esprit de Gabata, le moi est mis en évidence. Le moi est exalté. Le moi est cajolé. Le moi est admiré. Tout le monde a le regard tourné vers Gabata. Eh oui. Tout le monde vous applaudit. Tout le monde vous acclame. Voyez-vous? Quelquefois, lorsque quelqu'un me dit, bon voilà, pasteur, on a entendu des gens qui disent ceci, de cela. J'ai déjà dit à quelqu'un, c'est normal, je rends grâce à Dieu. Mais je ne peux pas faire l'unanimité, ça serait dangereux. Si je devais passer dans la ville de Kinshasa, tout le monde m'applaudit. Oh là 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 là. Je devrais me remettre en question. Car le Seigneur lui-même n'a jamais fait l'unanimité. Voyez-vous? Il y en a qui l'ont insulté, oui ou non? Peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Ah! Était-ce des éloges? Dites-moi, c'était des éloges? Certains l'ont dit, mais ça, c'est. Cet homme travaille avec un démon. Hein? Belzébul est avec lui. Vous voyez? Les gens l'ont rejeté. D'ailleurs, le texte que nous avons lu, ils ont préféré la faveur de Barabbas et ils ont rejeté le Seigneur. Donc, nous devrions faire attention. comme je vous avais dit, hein, ne soyons pas comme des moustiques. Le moustique est là, on fait ça, il pense qu'on est en train de l'acclamer, de l'applaudir. Je vais boire un peu d'eau. Le moustique pense que c'est... On est en train de... On le pousse à danser le tcha-tcha-tcha. Je suis décalé, hein. Je ne sais pas la danse en vogue, mais le tcha-tcha-tcha est célèbre. Voilà, tcha-tcha-tcha. Alors, dame moustique peut commencer même à se trémousser, oui ou non. Mais le tcha-tcha là, c'est pour la voir. Jusqu'à ce qu'à un moment, oh, tcha! Fini. Mes amis, beaucoup d'entre nous, sous l'influence de cet esprit des Gabatins, ont été manipulés, des serviteurs de Dieu, des gens qui ont été appelés d'une manière ou d'une autre, eh bien, ont été amenés à monter sur le Gabata, sous les acclamations des fidèles, sous les acclamations de gens, même des gens du monde, voyez-vous. Et au milieu de beaucoup de cris, comme nous allons le voir demain, mais c'était pour leur mort. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions descendre de notre Gabata, c'est que nous puissions nous débarrasser de cet esprit-là, et que nous prenions le chemin qui conduit à Golgotha. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin difficile, c'est un chemin où on verse des larmes. C'est un chemin où on est comme abandonné. Même à l'église, on vient, on a l'impression qu'il n'y a personne qui s'intéresse à nous. Vous voyez? C'est un chemin où on nous jette des cailloux, mes amis. Un chemin où on peut même nous traiter de sorciers. C'est à cause de lui que la famille ne va pas. Depuis qu'il prie, tout ne va pas. C'est un chemin, mes amis, où nous recevons, nous sommes lapidés de toutes parts. Mais c'est le seul chemin qui conduit à la gloire. C'est le seul chemin qui conduit à l'élévation. Car lorsqu'il a été cloué, mes amis, quand il a été pendu entre ciel et terre, au moment où il remet l'Esprit de Dieu, son Esprit entre les mains du Père, la Bible nous dit que l'obscurité s'est abattue sur toute la terre. La Bible nous dit que la terre a tremblé. La Bible nous dit que les tombeaux se sont ouverts. La Bible nous dit que les morts ont ressuscité. Quelle puissance, mes amis, de résurrection! Quelle puissance de vie! La Bible nous dit que même le centenier, l'officier romain, polythéiste, qui n'avait pas cru en lui, qui avait vu en lui un aventurier, un révolutionnaire juif, comme on en avait connu, terminait sa vie pendu sur le bois infâme de la croix, comme un criminel, même celui-là, lorsque à la croix, tout est devenu une réalité, même lui, la Bible nous dit, sa langue s'est déliée. Il a confessé, assurément, certainement, absolument, cet homme est fils de Dieu. Alléluia. Quittons Gabata, quels que soient les honneurs que nous recevons, quel que soit l'encens, quelles que soient les offrandes qu'on nous offre, quittons Gabata, c'est un lieu dangereux. Prenons notre croix et acceptons. Jésus a dit, mes amis, si quelqu'un veut marcher derrière moi, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il... Il n'y a pas de plus grand message que celui-là. Se charger de sa croix. Ça veut dire c'est passer par le désert. Ça veut dire que ce désert-là pourra avoir différentes formes. Désert financier. Vous pourriez aller dans tous les séminaires sur la prospérité financière, mais continuez encore votre désert. Parce que Dieu a un temps pour chacun de nous. N'essayons jamais de prendre de raccourcis. N'essayons jamais, mes amis, de nous tourner vers l'article 15. dans le livre du diable, mais laissons la Bible nous parler, nous interpeller. Alors, la route qu'il faut prendre, mieux, le chemin qu'il faut prendre, car une route implique toujours, où ça donne l'idée d'une chaussée goudronnée, n'est-ce pas? Où tout est nickel et tout ça, mais la route, le sentier que nous devons prendre, c'est le sentier qui part de Gabata à... C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Vous pouvez jeûner 40 jours tout en étant sur Gabata. Et là, le moi est même content. Il dit, continue. Ouais, continue. Là, il t'encense. Hein? Il te donne même la force. Et quand vous voyez un frère qui a à peine 2 jours, il commence à transpirer, il dit, non, ça c'est la chair. Ah non, attention. Lui, il reconnaît ses faiblesses. Ouais. Toi, l'esprit de Gabata te laisse tranquille. 40 jours, ouais. Au bout de 40 jours, jeûne d'Esther. Ok, on passe. Jeûne de Judith. On passe. Ouais, ouais. Allez rejoindre les filles de Sarah ou de Déborah. On passe. Ouais. Mais ce n'est pas ça qui va vous ouvrir les cieux. Nous avons chanté, les écluses s'ouvrent. Comme les écluses se sont ouvertes en ce jour-là, lorsque Jésus était pendu sur la croix, eh bien les écluses des cieux commencent à s'ouvrir. Lorsque nous prenons la croix et que nous commençons à nous diriger, c'est extraordinaire. Chaque pas fait en direction de Golgotha entraîne le ciel derrière nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà donc ce que nous devons éviter absolument, l'esprit des Gabata. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons recommander ce moment au Seigneur, mais aussi le moment consacré aux offrandes et aux dîmes. Comme vous le savez, c'est toujours avec cet argent que nous essayons de faire face aux différentes charges qu'implique l'organisation d'un tel séminaire. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour le message de ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à quitter Gabata. Ce n'est pas facile, Seigneur, laisser les honneurs des hommes. Ce n'est pas facile de laisser, Seigneur, les avantages matériels et financiers, Seigneur, qui sont notre part, de par notre position, Seigneur, sur Gabata, que nous regardions plutôt à l'opprobre de la croix, au rejet, au mépris de la croix, car c'est à Golgotha qu'il y a la vie et la victoire. Merci de nous avoir bénis par cet enseignement, et merci aussi de poser ta main maintenant, Seigneur, sur ce service des offrandes, et que cet argent serve à la gloire et à la louange de ton nom. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les paniers vont passer. Gloire au Seigneur. Entre-temps, notre frère mineur, en attendant qu'il devienne majeur, va nous conduire dans un ou deux chants. Il y a vite. Hein.